quand on en a parlé, c'était il y a plusieurs mois, de ça, j'avais d'autres sujets en fait autour de Pessah. Nous allons poursuivre l'idée de Pessah. Et ça fait quelques jours en fait que je passe mes nuits sur le temps qui passe. Je dirais pas les textes de Proust, mais presque. Mais en tous les cas, ouais, je suis plutôt habité par cette notion du temps, d'autant plus que les dernières parachiotes, ce qu'on appelle les péricopes, les passages bibliques que nous lisons le samedi matin, touchent à cette dimension du temps, dimension de la transmission, des articulations entre les générations. Et je crois que, voilà, ça foisonne énormément dans ma tête. On va essayer d'être universitaire, de construire un peu la pensée, mais ça va être, voilà, vous m'arrêtez, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Mais... Avant minuit, c'est ça. Hein? Très bien. La feuille que je vous ai donnée est un texte qui est tiré de l'Exode. C'est la péricope de Beau, la paracha, comme on dit, de Beau. On a beau dire péricope, ça n'a rien à voir avec les sous-marins. C'est la paracha de Beau, c'est le chapitre 12, verset 17. Je retourne vers ce texte dans un moment. Mais permettez-moi d'abord de parler du temps. J'ai lisé l'autre jour une petite phrase de Primo Levi qui disait que les peuples qui nient leur passé sont condamnés à les revivre. À revivre ses passés, et je crois que le temps qui passe doit servir à construire le temps qui arrive. Et nous lisions ce Shabbat, accessoirement la Kedat Yitzhak en hébreu, c'est ce qu'on appelle vulgairement le sacrifice d'Isaac, mais la Kedat signifie la ligature de Isaac. Et lorsque Abraham montait avec son fils Isaac sur la montagne du mont Moria, qui sera la future montagne où sera érigé le temple de Jérusalem. Sur la montée, son fils qui demande au père Abraham, où est l'agneau? Le texte hébreu nous dit, où est le sé? Où est l'agneau? Et le père de répondre, pour le sacrifice, le père de répondre, et là, nos rabbins sont assez subtil quant au signe de cantillation de la manière dont on va lire et chanter le texte, Abraham va répondre au fils, Dieu montrera le sacrifice, le C, mon fils, le C, l'agneau, en l'occurrence, virgule, mon fils, sous-entendu que le sacrifice sera toi dans la tête d'Abraham. Je ne vais pas reprendre des commentaires de Marc Raphaël Gage, parce que j'ai pu comprendre que par de nombreuses personnes ont la chance d'aller l'écouter le lundi soir à Genève. Et il est bien de rappeler que Dieu demande à Abraham d'élever, va aller où Cham et Ola, nous dit le texte, d'élever là-bas le fils en Ola, en montée, de monter, de faire monter en montée, c'est-à-dire d'autonomiser. Je la fais courte, d'autonomiser son fils et de permettre à son fils de tracer son chemin et non pas de tracer un chemin déjà tracé. Le problème, c'est qu'Abraham l'entend plutôt à travers un sacrifice et c'est la raison pour laquelle il va sous-entendre à son propre fils que le C, l'agneau, qu'il apportera en holocauste sera celui-ci. Et je remarquais ce week-end que ensuite, lorsque Dieu va l'arrêter, le couteau va toucher la gorge de Isaac. Le texte talmudique nous dit qu'à ce moment-là, il s'est évanoui. Et puis quand il s'est réveillé, il était un homme. Accessoirement, le Midrash nous dit qu'il avait 37 ans. Donc c'est assez curieux. Il va devenir un homme et puis lorsque Abraham va chercher un animal de substitution, il ne prendra pas un agneau, il ne prendra pas un C, nous dit le texte, il prend un haïl. Et ça, je l'ai remarqué grâce à certains commentaires, en l'occurrence du Mesher Chochma et du Netiv, qui est le Rabbi Chaim Berlin de Vologine. on est au 17e-18e siècle, c'est extraordinaire que le père, à ce moment-là, va prendre un Aguil, qui est le père du C, et qui est donc le bélier, qui fera ensuite office objet de fête à travers la corne dans laquelle on va souffler à Rosh Hashanah pour éveiller les âmes des uns et des autres. C'est extraordinaire que le père ensuite va prendre le bélier et va tuer le bélier, autrement dit, va tuer le père pour permettre à son fils de tracer non pas le mektoub, non pas le déterminisme, non pas d'être dans une copie conforme, comme on dit aujourd'hui en Internet, sur l'informatique, un clonage, un copier-coller, mais de permettre à son fils de tracer son chemin, son propre chemin. Ce qui n'est pas une mince affaire, et on est là justement dans le problème de l'articulation des générations. Sachez que depuis Adam jusqu'à Noé, de Adam à Rishon, de Adam, ça n'a rien à voir avec la brosse, de Adam et Ève, depuis Adam jusqu'à Noé, jusqu'à Noar, il y a 1000 ans qui les séparent, il y a 10 générations. Comme on va retrouver 10 générations entre Noar et Abraham. Accessoirement, on a beau dire que Mathusalem était le plus vieil homme, là, me semble-t-il, il n'avait que 969 ans, à Noé en avait 950 à sa mort, donc c'est, la différence n'est pas énorme. Et pour la petite histoire, Noé a connu Abraham, parce que Abraham est né 10 générations après, et se sont croisés. D'ailleurs, Abraham a étudié dans les tentes, dans l'école talmidique, la yeshiva de Shem et Ever, comme son fils Isaac et comme son petit-fils Jacob. Quand Jacob s'est enfui pour se cacher, il est allé se remettre en question dans les tentes de Shem et Ever. Shem est le fils de Noé. Shem, c'est Nick. Shem est donc le fils de Noé, et Ever était le fils de Shem, et Abraham, Israël et Jacob, les patriarches ont étudié dans les temps de Shem et Ever. On dit Abraham l'hébreu, parce qu'on entend par l'hébreu celui qui est Ever, qui passe sur l'autre rite pour marquer sa différence, et donc marquer sa responsabilité. Mais Ever signifie peut-être l'hébreu, l'élève, le fils spirituel de Ever, qui était le fils de Shem. À la différence, nous dit les textes, que Abraham a diffusé le monothéisme, ce que n'a pas fait Ever. Il ne suffit pas d'étudier, encore faut-il transmettre. Et Shem et Ever, donc, sont les enfants de Noé. Ever avait 600 ans, je crois, à sa mort. Donc, il n'y a qu'à partir d'Abraham, on arrive au taquet autour de 175, 175 ans avec Abraham, après on descend 135, on arrive aux 120 de Moïse, tant bien que mal. Voilà, donc l'espérance de vie, on retrouve un peu nos cordes à nous. Je parlais des générations, parce que entre Adam et Noé, il y a 10 générations. Et sur ces 10 générations, le texte biblique rouvrait, je vous prie, la Torah, le début de la Genèse. Les parents ne font qu'engendrer des banim ou banot, sexe mâle et sexe femelle. Yalad banim ou banot, un tel a eu banim ou banot, qui a donné banim ou banot. Si on a ainsi de suite, des banim et des banot, garçon-fille, de génération en génération, depuis Adam jusqu'à Noé. Et ma mère, de mémoire bénie, m'avait fait remarquer que de ces 10 générations, il y a eu seulement 3 personnes qui ont été dénommées Ben, fils. On n'a pas d'autre Ben dans le texte. Et on a un Adam, Adam et Chava, Adam et Ève, qui mettent au monde un Ben. Alors qu'avant, jusque-là, on a Caïn et Ével. Ével qui a été tué, Caïn qui a été chassé et ensuite tué, mais qui n'ont pas de parole, qui sont sans parole. C'est une histoire muette, parce qu'ils commencent à parler, ils finissent dans le champ et puis ils s'entretuent. Sans parole féconde, sans parole constructrice, sans parole parlante, comme dirait Marc-Alain Wakening. Et puis, on a ensuite un troisième fils qui est appelé Ben dans le texte biblique, et on n'a nulle part autre dans le texte de ces générations-là cette mention, ce vocable Ben, mentionné dans le texte de la Torah. Je trouve ça extraordinaire. D'autant plus extraordinaire, c'est qu'ensuite, il y aura Shem qui va mettre au monde Enoch, et pour Enoch, c'est marqué Yalad Ben, il a mis au monde un fils. Et puis ensuite, les générations vont se succéder jusqu'à ce qu'on arrive à Lémer, qui est le père de Noé. Et pour Lémer, c'est marqué Lémer a mis au monde Ben, un fils, dénommé Noé. Et on n'a que trois Ben, Beth, Nun. On n'a que trois fils en tout et pour tout sur 1000 années entre Adam et Noé. Et ma mère d'expliquer que finalement, être un Ben, c'est être un bonnet. Une nomographie qui est pertinente, c'est que Ben, qui veut dire fils, s'écrit comme bonnet, qui veut dire construire. Bet Nun He. Ça a la même racine, parce que quand on est, quand on N'VST, on doit être constructeur. Comme disait Abraham Heschel, les bâtisseurs du temps, on met au monde un fils, donc on met forcément au monde un bâtisseur, un constructeur. On ne doit pas engendrer l'histoire, on doit générer l'histoire. Tout un programme. Je ne mène pas des engendrements qui s'engendrent, mais je génère et je féconde l'histoire. Pardon. C'est toute la difficulté qu'ont ces générations entre Adam et Noé, et on a seulement trois Ben, on a seulement trois constructeurs qui construisent, et c'est le seul sens à la vie, de construire entre Adam et Chava, et entre Adam et Chava jusqu'à Noé. La difficulté qu'Abraham va avoir, c'est de croire que Yitzhak, son fils, va pouvoir s'inscrire dans son chemin, dans son derer, comme nous dit la loi juive. Maïmonide nous rappelle « Chaner hanar al pidarko » éduque l'enfant selon, non pas « al darkecha » mais « al darko » selon son chemin. Le chemin à cet enfant. Les enfants sont doués mais non développés, je crois que c'est Dolto qui le disait, mais le problème c'est de savoir si je me réalise à travers mes frustrations, mon chemin de vie, je me réalise à travers mon enfant, ou je permets à l'enfant de se détacher de moi pour qu'il puisse se réaliser dans son chemin, lui, non pas dans un chemin déjà tracé, mais tracer son propre chemin qui lui appartient. C'est toute la difficulté donc des articulations entre les générations. Nous allons retrouver dans ces chemins de vie, parce qu'on est amené à cheminer. On est amené à cheminer. Abraham, on ne lui dit pas où aller, on lui demande de cheminer. Lech lecha, va. D'ailleurs, ce va pour toi, on va le retrouver à l'occasion de la ligature d'Isaac. Lech lecha. Le Talmud d'ailleurs s'arrache les cheveux pour savoir si c'est le premier lech lecha, va pour toi, qui est le plus important, ou le second à la montée sur le Moria. Et ce cheminement est fondamental, à tel point que les maximes de nos pères, qui est le début de la Mishnah, du Talmud, qui va arrêter la loi entre 200, entre moins 300 et plus 200 de notre ère, dans la Mishnah, on discute entre lesquels de ceux qui partent étudier dans un Beit HaMidrash a le plus de mérite, lequel de ceux qui cheminent pour traverser les champs, pour aller ensuite toquer à la porte de la maison d'études et s'asseoir étudier les textes de la Torah. Le texte fait mention d'une personne qui a pu être holer, c'est-à-dire d'aller et de cheminer, et a pu aboutir, rentrer dans la maison d'études, s'asseoir étudier. Et puis le second qui a fait le même mouvement, qui a cheminé, qui est arrivé à la porte, mais qui a dû rebrousser chemin, le natel sonné, le portable sonné, il a dû retourner à la maison, le lait qui déborde, un grand-mère qui est malade, je ne sais pas. Et donc on parle de deux personnes qui ont marché, qui ont été relais, l'un qui a pu rentrer, l'autre qui n'est pas rentré. Et la Mishnah qui réfléchit, se pose la question de quel des deux a le plus de mérite. Est-ce que celui qui a pu rentrer étudier ou celui qui n'a fait que marcher? Celui qui a marché. Évidemment, c'est important d'étudier. L'étude me permet de donner sens, permet à la vie de faire sens, pour que l'acte ne soit pas un acte dans lequel je m'enferme, mais pour pouvoir donner sens à ma vie et me conduire vers l'humain. Je ne suis pas un humaniste, c'est le discours de la Torah. Avant tout, ce discours universel de la Torah, et c'est comme ça que j'entends en tant qu'orthodoxe, c'est-à-dire que l'acte, je ne m'y enferme pas au risque de devenir orthopraxe, l'acte me permet d'aller vers l'autre. Pour moi, étant pratiquant, l'acte est nécessaire parce que c'est un levier qui me permet d'aller vers l'autre, tout autre qu'il est. Je chemine, et ce cheminement est vital, et c'est la base même de ce Lech Lecha, où Abraham va également être Ovér, va être l'hébreu qui va cheminer et marquer sa différence en passant sur l'autre rive, et marquer sa différence en marquant cette différence dans sa chair, à travers la circoncision, à travers le vêtement, à travers la cacheroute, à travers l'alimentaire, à travers les relations sociales, à travers le travail. Cette différence pour marquer sa responsabilité, il chemine, et le cheminement de cette personne dans le texte talmudique qui n'a pu aboutir, mais qui n'a fait que cheminer, est fondamental, et ce srar, halicha nous dit le texte, cet halicha, un srar, a un mérite en soi. C'est très juif, ça. Et donc, je retrouve ce cheminement chez Abraham lorsqu'il monte sur le Moria. Le problème, c'est qu'Abraham va croire que son fils va se réaliser, va s'inscrire dans son cheminement à lui. C'est là l'erreur. Et le Neti va nous dire en retour qu'il va le comprendre en sacrifiant le bélier, en sacrifiant le père. C'est la 10e épreuve d'Abraham. Les exégèses discutent. Où est cette 10e épreuve? Est-ce que c'est l'épreuve de monter avec son fils et de devoir partager cette crainte avec lui, ou bien c'est de redescendre avec lui? Une discussion magnifique, Rav Kook, qui nous dit qu'ils se sont donné la main après avoir partagé cette idée de « tu seras le C, tu seras l'agneau, mon fils ». C'est marqué qu'ils se sont donné la main, Veshnem, Yardav, et les deux ensemble montèrent sur la montagne. Et le Kotzker Rebbe, un chassid, j'aime bien les chassidim en général, et ce chassid qui nous dit non, c'est le retour qui est pertinent parce que lorsqu'ils redescendent à la montagne, ils se donnent la main. Et le Veshnem, Yardav, ils retournent à Beersheba, où ensuite allait habiter Abraham, et ils se donnèrent la main à ce moment-là. Abraham avait compris que Isaac avait son chemin, pour autant il se donne la main. Et le Kotzker Rebbe nous dit, c'est ça l'épreuve d'Abraham. Extraordinaire. Le temps, c'est le cheminement, c'est ça. C'est ce qui me permet de maturer. J'avais un maître, il y a une trentaine d'années, j'ai 45 ans, donc ça, c'est une trentaine d'années, on me dit toujours, tu parais d'en avoir 20, mais non. Il y a une trentaine d'années, j'avais un maître à Strasbourg, qui était Michel Monait, Rav Monait. Il disait Mark Alan Watkins dit toujours, la patience, c'est de savoir qu'il faut du temps pour être. Et ce Rav Monach nous disait il y a une trentaine d'années, il n'y a pas de mal et de bien, tout est dans la mise en place dans le temps. Avant l'heure, c'est pas l'heure, on connaît la phrase, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je trouve ça très pertinent. En fait, l'homme ne fait aucune faute, mais le problème, c'est qu'il va accélérer le temps. Et donc, il va accélérer la venue du non-temps, de l'illimité, de l'eschatologie messianique. Le mal est peut-être ce que l'on ne fait pas au moment adéquat. On veut précipiter le temps. Le zen, ce n'est pas la précipitation. Vous savez que dans la loi juive, on écrit et on crie haut et fort qu'il faut être zélé dans les mitzvot, dans les commandements divins, pour leur application. À tel point que lorsqu'on a une circoncision à faire, il faut la faire aux aurores, on ne la fait pas à minuit du soir, on la fait au lever du soleil. Et on l'apprend d'où ? On l'apprend de ce passage de la ligature d'Isaac, de Vayashem Avraham Baboker. Abraham s'est levé tôt le matin, après avoir eu la mission de Dieu, et ensuite est allé ligoter son bois, prévenir son fils, prendre les serviteurs avec lui, l'accompagner. Et c'est marqué « Vayashken Avraham Baboker ». Abraham s'est levé tôt le matin. De là, déduisent nos rabbins qu'il faut être zélé pour les mitzvot. Se résume au magdimim la mitzvot. Donc il faut les faire le plus tôt possible. J'avais d'ailleurs un maître à l'Yeshiva en Israël qui me disait « Vayashken Avraham Baboker, Abraham s'est levé le matin ». Ça veut dire qu'il a dormi. Les enthousiasmes débordants sont parfois dangereux. C'est pas parce qu'il avait une mission que ça l'a empêché de dormir. Je referme la parenthèse. Donc il faut être zélé. Mais zélé ne signifie pas se précipiter. C'est de faire les choses en leur temps. Ce problème du temps, ce problème du cheminement, ce problème du temps, est un vaste problème dans la Torah. Être, outre l'être suprême, être ani, qu'on dit je suis en hébreu, l'auxiliaire être ne se conjugue pas au présent. On dit ani, je. L'Éternel va dire dans les 10 commandements anochi. Il ne dira pas ani. Certains diront, ils ne traduiront pas par « je suis » mais « fait que je sois ». Comme le « Eya Sheriye » que je ne traduis pas par « je suis ce que je suis » mais « je serai ce que vous ferez que je sois ».« Je serai ce que vous ferez de moi ». Et « Eya » c'est un futur. Être au moment présent, le « Ikenoun » qui existe dans la Torah. Et au moment où je dis « je suis », au moment où j'essaie de l'écrire ou de le dire, ce « je suis » est déjà derrière moi. L'auxiliaire se conjugue au futur, se conjugue au passé. Et il est important pour pouvoir le conjuguer au futur de regarder dans le rétroviseur. Quand Primo Levi me dit, nous écrit, nous dit que si je fais fi de mon passé, je suis condamné à revivre ce passé, c'est-à-dire que le passé m'aide à me projeter dans l'avenir et donc me permet de construire. Le souvenir sert à cela. La commémoration sert à cela. Pas pour ériger des statues ou des stèles, mais la stèle doit me secouer la tête, doit me remettre en question pour pouvoir construire ou reconstruire le sens de la vie. Sinon ça n'a aucun sens, sinon c'est se figer dans le passé. Toutes les fêtes d'ailleurs de pèlerinage sont mentionnées pour être dans le zecher, dans le souvenir. Et c'est un zecher qui est actif et se souvenir du passé pour pouvoir me projeter dans l'avenir. Maïmonide va jusqu'à dire que la fête de Pourim d'ailleurs est à l'image du Pourim messianique. Ou comme Pourim c'est le carnaval juif. ou comme le Yom Hadin, le jour de Kippour, est un Kippour qui est à l'image du Yom Hadin qu'il y aura plus tard, au temps messianique. Donc on est dans la projection. Paralysrak insiste beaucoup là-dessus, Ravoutner. Donc on est dans cette projection. À tel point que lorsque la Torah va nous dire « Souviens-toi d'Amalek, au sortir d'Égypte, ce peuple qui est venu attaquer les faibles en arrière du peuple hébreu », la Torah nous dit « Efface le souvenir d'Amalek, Zecher, souviens-toi de ce qu'il t'a fait, et Altishkar, n'oublie pas. » La Torah n'est pas payée au mot. Pourquoi a-t-elle besoin de dire « Souviens-toi et n'oublie pas ». Ne pas oublier, je sais ce que ça veut dire. Souviens-toi, c'est agir. C'est quelque chose de l'ordre du construire. Et donc, le souvenir, je fête un anniversaire, je commémore un souvenir par rapport à la fin de la guerre, comme demain par rapport à la première guerre, ça doit m'aider à comprendre l'histoire et ça doit m'aider à parfaire ma vie et la vie qui m'entoure, le monde dans lequel j'évolue. Sinon, ce souvenir ne sert à rien. C'est ça le zécher. Donc, être au moment présent n'a aucun sens, si ce n'est pas pour puiser derrière moi et regarder en avant. C'est ça cheminer. Le terme Zeman, qui est le temps en hébreu, Zeman, je vais l'écrire en
c'est vrai qu'on enregistre, alors je vais vite rejoindre mon micro. Pardon. Voilà. Oula. J'ai meublé pour éviter de me faire tirer les oreilles. Voilà, on va tourner. J'espère que ce sera un peu plus clair. Je l'ai fait en cursive et en majuscule. Hein. Zeman, c'est le temps en hébreu. Le temps, cette terminologie, Zeman, n'apparaît pas du tout dans le texte de la Torah. Du tout. J'adore les concordances. Si vous en avez une à la maison, c'est toujours très intéressant de les feuilleter pour voir où apparaissent tel ou tel mot. Ce mot Zeman apparaît par exemple dans l'Ecclésiaste. Quand Salomon dit « il y a un temps pour chaque chose ». Et des korchefets, il y a, comment c'est écrit, et les korchefets tachat hashamayim, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, ou les kolzeman, il y a chaque moment. C'est intéressant d'ailleurs que ce mot zeman est utilisé dans le sidour, dans le livre de prière, chaque fois qu'on parle des fêtes, alors que ce mot n'apparaît pas du tout dans la Torah. Dans la Torah, alors vous aurez le mot et, aïn, tav. Et, c'est le temps. Zeman, je le traduirais plutôt par moment. Alors c'est toujours très curieux parce que la Torah n'est jamais riche en vocabulaire. Ce que la Kabbale souligne comme richesse, parce que je vais utiliser un mot pour signifier différentes choses, c'est toute la richesse du vocabulaire, souligne le Zohar. Et c'est intéressant que là, il y ait une polysémie. C'est-à-dire que pour parler du temps, on aura différents vocables utilisés dans les textes talmudiques et dans le texte de la Bible. Et pour dire, pour évoquer le temps dans la Torah, dans le début de la Bible, dans la Torah, vous aurez le mot « moed ». M-O-E-D. Moed, qui signifie en même temps la fête. On dit Chol HaMoed, semaine de demi-fête pour la semaine de Sukkot, la fête des cabanes, ou la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive. Moed, c'est la fête. Et en fait, Moed, quand on parle de Moed dans la Torah, eh bien, il s'agit du temps. Et si vous aurez un dictionnaire, si vous aurez un Larousse, pour Moed, il est marqué temps, il est marqué moment, et il est marqué rendez-vous. Le Moed, la fête est un moment de rendez-vous. C'est la rencontre. C'est la rencontre entre Abraham et Isaac, de manière à ce que la parole de l'un soit parlante et réciproquement, que chacun ait une parole qui féconde, c'est la rencontre, c'est ce qu'on appelle se parler. J'aime bien rappeler que Coluche disait toujours, on a de plus en plus de machines pour communiquer, mais on se parle de moins en moins. Se parler, c'est ça. C'est permettre à l'autre d'exister. C'est faire du discours. Générer le discours de l'autre. Et donc lui permettre d'exister. Ça, c'est la rencontre. Ça, c'est la vraie rencontre. Et on marque des temps de rencontre entre Dieu et les hommes pour pouvoir féconder la vie, pour pouvoir féconder le sens, du sens et le sens de la vie. Ce Moed, c'est le seul vocable utilisé dans la Torah pour évoquer le temps. Alors que on va utiliser dans le Talmud le Zman, on va utiliser dans le Talmud le Etz, le Moed est un rendez-vous, le Et est un temps, et le Zman, je vais le traduire par moment. Zimen, quand j'adresse une Hazmana en hébreu, c'est une invitation. Zimen, c'est invité. C'est aussi l'invitation à la rencontre, l'invitation à la parole, à deux paroles qui se rencontrent. Mais ce terme de Zman, du temps, n'apparaît pas du tout dans la Torah. Et en même temps, l'homographie que vous voyez, on peut l'entendre de deux façons différentes. Je me relève. Je garde le micro pour... Alors, Zeman, c'est le temps. C'est le temps dans la Torah. On peut lire ça également, Zeman, c'est le man. Et man a deux sens oblis. Man peut soit désigner la manne, cette manne céleste, ce pain qui tombait du ciel dans les années de pérégrination du peuple hébreu dans le désert. Et la manne, elle était la même, tombée à la même heure d'ailleurs, elle était la même le lundi, le mardi, le mercredi. C'était toujours la même apparence. La différence, c'est que si je pensais à un steak frit, ça avait le goût du steak frit. Si je pensais à une tarte à la rhubarbe, ça avait le goût de la tarte à la rhubarbe. J'aurais bien aimé. J'aime beaucoup la tarte à la rhubarbe. La manne, c'est ça. C'est que c'est une matière identique de jour en jour. Sauf le vendredi, on en reçoit le double pour que on n'est pas à ramasser le Shabbat parce qu'il est interdit de porter le jour du Shabbat. Et donc, je préparais le double vendredi, mais on est dans quelque chose d'identique, de jour en jour. On est dans le même de Lévinas, dans quelque chose qui est répétitif, constant, toujours la même chose, de rébarbatif, si je puis dire. Parce que le temps, parfois, peut être rébarbatif. Le temps est cyclique. Le tout est de savoir que lorsque je reviens au Nouvel An, est-ce que je suis dans le même Nouvel An que l'année dernière, ou comme diraient certains, comme une spirale, je suis sur la spire supérieure. Je suis revenu à mon Rosh Hashanah, mon Nouvel An, sauf que j'ai évolué, du moins je l'espère. Je suis un peu au-dessus. C'est quoi ce temps-là? Est-ce que je suis dans Zeman, dans cette manne, dans ce même, ou bien est-ce que je suis dans le man, qui en araméen veut dire qui, quoi, ma, la question. Et man, en araméen, signifie qui. Est-ce que je suis dans quelque chose de répétitif, ou est-ce que je suis dans quelque chose qui est de l'ordre de la question? Est-ce que je suis dans le questionnement? C'est tout le problème. Parce que vous savez, vous connaissez ces jeux autour des valeurs numériques de l'être hébreu. Vous savez que Adam, Aleph d'Aleth même en hébreu, a comme valeur numérique 45. Parce que Aleph, c'est la première lettre, ça vaut 1. Chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur numérique. Le Dalet, c'est 4, et le même qui finit à Dame désigne 40. Et donc 1 plus 4 plus 40, ça fait 45. Et comme par hasard, ma, la question, ma, même et, fait 45. Est-ce que je suis dans, comme dirait Marc-Alain Ouattine, dans cette quabilité qui me permet de construire et de reconstruire? Ou est-ce que je suis dans quelque chose qui est de l'ordre de la main, qui va sans cesse se répéter? Vous connaissez le Manishtana, un texte de la soirée pascale autour des tables du Seder, la fête juive de la Pâque juive. Il y a un texte que les enfants chantent et qui se chante Manishtana, quelle est la différence entre cette nuit et les autres nuits? Un jour, un de mes maîtres qui me disait Manishtana, quelle est la différence? Et un jour, un maître me disait, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Manishtana, pour qu'il y ait du nishtana, il faut du ma. Si vous voulez que les choses changent, il faut de la question. Abraham, d'ailleurs, lorsqu'il va s'élever contre l'Éternel, va dire « Mais bema eda ki irashena, comment je saurai, comment je vais savoir que j'habiterai de la terre d'Israël, la terre de Canaan, bema eda, comment je saurai, comment je vais pouvoir finalement construire ma vie, bema eda ?» Encore une fois, ce même maître qui me disait « Bema eda, pour eda, pour savoir, pour avancer, c'est à travers le ma, à travers la question. Bema, c'est avec le ma, eda ki rachena. Comme ça je saurai. Et comme ça j'apprends. Et comme ça, l'omed, je vais pouvoir m'élever au-dessus de toutes les autres lettres. Parce que le lamed est la seule lettre qui les dépasse toutes, vous le savez. Ça c'est le zeman, c'est la question. C'est le problème du temps. Alors, ce qui est très curieux, c'est que j'ouvrais, je cherchais encore d'autres sources dans la Torah, et par hasard, je tombais tout à l'heure sur les 10 plaies d'Égypte, parce que le Talmud va reprendre cette idée de la parole divine, avec les 10 Mahamarot, Dieu va créer le ciel et la terre, et ensuite, avec 10 diberot, c'est pas dans la terminologie de la Amira, du dire, mais du dibour, de la parole, que les commandements vont être transmis, et entre l'un, entre les uns et les autres, il y aura 10 makot et 10 plaies, c'est le Talmud dans les maximes de nos pères, dans les Pirkei Avot qui mentionnent ce passage. Donc j'étais un peu assis sur ces textes, tout à l'heure, et puis je suis tombé sur la 5e plaie d'Égypte. En feuilletant la concordance, parce qu'il est toujours curieux de voir où ce mot aide, on parle de la fête lorsqu'on parle des fêtes dans la Torah, mais je suis tombé sur un mot aide qui ne parle pas des fêtes. Il y a ce mot-là qui voyage tranquillement, et on demande ce qu'il vient faire ici, au milieu de la 5e plaie d'Égypte. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il dit « Je vais lui parler de Moed, les morts, en ce temps, en cette rencontre, pour dire... » Et donc, inviter Moïse à lever le bâton pour annoncer la 5e plaie d'Égypte, des vers,
cette cinquième plaie qui est la peste. Et on parle de Moed à ce moment-là. Et on ne parle pas de Moed pour les autres plaies, pour les neuf autres, comme par hasard. Et cette plaie s'appelle Dever, la peste. Et là encore une fois, cette homographie a différents sens. Parce que Dever, c'est la peste, alors que Davar, Dibour, c'est la parole, Davar, c'est l'objet, et je rajouterai Midbar, c'est le désert. Parce que parfois vous avez des déserts avec des silences assourdissants. Vous avez parfois des silences tellement éloquents qu'il devient insupportable. Parfois vous avez des paroles aussi qui sont de l'ordre du désert. Et parfois vous avez des paroles qui sont de l'ordre du désert, de la peste. Encore faut-il savoir de quelle parole il s'agit. Quelle est cette parole que je féconde et qui permet à l'autre, à son tour, de parler et d'être dans la rencontre? C'est tout le problème du temps. Quel est le temps que j'offre à l'autre pour lui permettre de féconder la parole? Maintenant, on peut parler j'ai imprimé ce texte-là parce que le texte est très très curieux. J'avais promis, lorsque on m'avait sollicité, de parler de Pessah, de parler de la Pâque juive. D'ailleurs, Pessah signifie la bouche qui est sar, qui parle. Pessah. P, c'est la bouche, sar, c'est parler. Donc je n'ai pas trop parlé ce soir. Alors, le verset se trouve dans l'Exode, c'est la péricope de Bo, paracha de Bo, chapitre 12, verset 17. C'est marqué, je vais lire en hébreu, puis je vais vous donner la traduction, vous l'avez sous les yeux, où Shmartem et Amatzot. Et vous observerez, vous conserverez, vous garderez les matzot, les pains azim, qui be'etchem hayom azeh, car c'est au milieu de ce jour-là, otseti, que j'ai fait sortir, et tsivoterem, vos armées, meretz mitzrayim, de la terre d'Égypte, ushmartem, encore une fois, et vous conserverez, vous garderez, et hayom azeh, ce jour-là, Yedorotechem pour vos générations à venir, Hukatolom, Hukatolam, pardon, avec ma prononciation ashkenaz, Hukatolam, qui est un décret ad vitam aeternam. Et Rashi, l'exégèse le plus célèbre de la Torah, auteur français qui a vécu à Troyes au XIIe siècle et est mort autour de 1105, me semble-t-il. Et Rashi, qui est un passage obligé lorsqu'on étudie la Torah, apporte un midrash, un commentaire allégorique sur ce passage. Et c'est marqué « Ushmartem et Amatzot, vous garderez les matzot, vous allez sauter les premières lignes. » Et puis, je vais mentionner Rabbi Yoshia. Je vais le dire directement en français. J'ai horreur des traductions. Hein. Parce que quand on essaie de donner du sens du temps et du sens au texte, on est déjà hors texte. Hein. Parce que le texte a tellement de sens, c'est toujours très difficile de donner une traduction parce que vous ne serez pas dans le sens, mais vous serez dans un sens. Mais on sera quand même dans un sens quelque part. Rabbi Yoshia dit, ne lis pas est un matzot, les matzot, mais les mitzvot. Les consonnes sont identiques. Vous savez que les rouleaux de la loi, les rouleaux de la Torah, lorsque vous aurez le texte, le parchemin, dans la synagogue, ce texte n'est pas voyellisé. Vous avez seulement les lettres,
les consonnes. Et donc lorsque vous avez le mot matzot devant les yeux, vous pouvez lire de différentes façons. En l'occurrence, pardon, ici il se lit matzot, et Rabbi Yoshua nous dit non, c'est pas matzot, mais c'est mitzvot qu'il faut lire. Et les mitzvot, c'est le pluriel de mitzvah, qui veut dire les commandements divins. Et il explique pourquoi que derer shein macham mitzin et amatzah, de même qu'on ne laisse pas fermenter la pâte de la matzah, ainsi on ne laisse pas monter, autrement dit, on ne laisse pas attendre la mitzvah, et donc si elle vient à toi, surtout ne la laisse pas passer, fais-la tout de suite. Donc, parallèle évident, hein, Rabbi Yoshua nous dit, sachez que la matzah et la mitzvah, c'est kif-kif, c'est la même chose. Si, de la même manière, ma matzah, faut pas la laisser fermenter parce que vous savez, qu'au terme de 18 minutes, la matzah n'est plus utilisable en tant que matzah, la loi juive m'oblige, après avoir confectionné la pâte, de la mettre directement au four. Ce pain azim n'est plus pain azim et devient hametz après 18 minutes. C'est un temps, je ne vais pas maintenant épiloguer, mais c'est-à-dire que pour qu'elle soit cachère, autrement dit pour qu'elle soit apte à la consommation, cachère ne veut pas dire comestible, hein, cachère veut dire apte à. Pour que ce soit propre à la consommation, donc je dois me tenir à ce temps de 18 minutes. Et nous dit Rabbi Yoshua, de la même manière, je dois me dépêcher de faire ma matzah, de la même manière, ma mitzvah, il ne faut pas la laisser fermenter. Si je suis invité à faire une mitzvah, il faut la faire tout de suite. Alors, je suis un peu stupéfait. D'autant plus que, en allant chercher à gauche, à droite, on tombe sur un texte du Maharal de Prague qui nous dit oui, il ne faut pas laisser la mitzvah se gâter. Mais Maharal de Prague est 17e, c'est le Rabbi Houda Lev de Prague, un des pères de la Chassidoute. Et qui nous dit, oui, faut pas laisser la mitzvah s'enfermer dans le temps, il faut également se dépêcher et être zélé quant à son accomplissement. C'est incompréhensible parce que le parallèle n'est pas très clair. À la mesure où une matzah après 18 minutes n'est plus cachère, alors qu'une mitzvah après son temps, T, reste une mitzvah. Évidemment, j'ai mis mes phylactères à la synagogue ce matin, j'ai mis mes tefillines, mes boîtes noires. J'ai pas eu le temps de les mettre ce matin, bon, entre parenthèses, je les ai mis ce matin, mais enfin, si j'ai pas eu le temps de les mettre ce matin, je peux encore les mettre l'après-midi. Évidemment, ça n'aura pas la même valeur, mais je n'ai pas rien fait. Je peux le faire après. Ça veut dire quoi? Ce temps de la mitzvah. Alors, j'ai trouvé des réponses à gauche, à droite, c'est celle du Gaon de Vilna, qui rappelle que le temps le zman est une création nécessaire. Le temps est l'objet d'une création. Le temps est d'ailleurs la première création. Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz, c'est par le temps que Dieu crée le ciel et la terre. Le temps d'ailleurs, tout le temps au début de la création du monde est assez difficile à comprendre. Parce que d'abord parler de 6 jours de création n'a aucun sens. J'aime beaucoup la traduction de Vogue
celle de Chouraki aussi, mais la traduction de Vogue, qui est un grand rabbin du 19e, mais qu'on ne trouve plus sur le marché, mais si vous avez un jour l'occasion de tomber dessus sur Internet, n'hésitez pas à imprimer. Grand rabbin Lazar Vogue, qui était membre de l'Académie impériale de Metz, qui était grand rabbin au séminaire rabbinique, qui a enseigné la théologie à gauche à droite. J'aime beaucoup d'ailleurs dans sa préface, parce qu'il se présente, puis à la fin il est etc. Et Vogue traduit les six jours de création par six périodes. Qu'est-ce que ça veut dire un jour? En tous les cas, c'est pas le jour tel qu'on le conçoit aujourd'hui. D'ailleurs, le premier jour n'est pas le premier jour, c'est marqué Yom Echad. C'est jour 1, c'est pas le jour premier. Qu'est-ce que ça veut dire de créer le temps alors que les astres, on en est tributaire, puisque le temps est fixé par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, alors que les astres ont été créés bien après. Alors je vous invite à, si vous avez un jour la chance de tomber sur, sinon je vous ferai des photocopies, sur les traductions de Vogue, c'est explosif. Alors Bereshit bara Elohim, le Gaon de Vilna traduit Bereshit par, en un Reshit, par un Reshit, par un commencement, donc par le temps, Dieu créé. Il doit d'abord créer le temps pour pouvoir ensuite s'y inscrire le ciel et la terre. Comme c'est écrit, Baruch Yotzer Bereshit, béni soit celui qui crée le temps. Et à l'opposé de ce temps et de ce monde, la Torah, qui est intemporelle, et Dieu se positionne face au temps, et donc extra-temporelle. Et le Gaon de Vilna nous dit, il est nécessaire de s'inscrire dans le temps, non pas de s'enfermer dans le temps, mais de s'inscrire dans le temps pour pouvoir comprendre la mitzvah. Si la mitzvah est une rencontre, je ne peux pas être dans l'extra-temporel. Je dois m'inscrire dans le temps, je dois m'ancrer dans le temps pour pouvoir être dans cette rencontre. Autrement dit, et j'ai pas pris le texte parce que c'est un peu la course tout à l'heure, j'aurais aimé prendre Bamidbar, les nombres avec moi, pour évoquer, souligner tous les passages où on parle de la hâte, de la précipitation, du zèle au sortir d'Égypte, Gamseda, Veloit Mamea, etc. Tous ces passages dans Bamidbar où on évoque le temps, où on est pressé, tellement pressé d'ailleurs parce que le peuple hébreu veut rester en Égypte, le Tiferet Israël, on dira qu'il était tiré par les cheveux pour sortir de là. Et puis ensuite on va dire, on va prendre le temps pour faire la matzah, parce que la matzah en même temps c'est un pain de liberté. Puis on se rend compte que pour la confectionner, il faut se dépêcher. Alors ça veut dire quoi? Liberté, on est précipité par la sortie, et en même temps, il y a ce temps de maturation. Le Gaon de Vilna nous dit, pour prendre conscience, comme dirait mon père, de la tangente à la sphère, prendre conscience de la tension à l'infini, je suis obligé d'être dans le temps. Parce que la sortie d'Égypte est fondatrice du peuple, une grande discussion d'ailleurs, dans le Talmud, entre le grand maître, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, si le monde a été créé au mois de Nissan, au mois de Tishri, parce qu'on dit que le nouvel an, c'est le mois de Tishri. D'ailleurs, c'est pas... Le monde n'a pas été créé au mois de Tishri, le monde a été créé 7 jours avant, si je puis dire. Le premier Tishri, c'est l'homme qui a été créé, c'est pas le monde. Ayom Arat Olam, il s'agit de l'homme. L'homme a été créé le premier Tishri, le jour de Rosh Hashanah, juste après les moustiques. Mais la création du monde, c'est à la fin du mois de Elul. Et une discussion d'ailleurs dans le Talmud, si le monde a été créé en Tishri ou a été créé au mois de Nissan.
Mais on est toujours dans ce cheminement. Le Maharal de Prague va nous dire, oui, premier Nissan, c'est la création du monde. On est dans la révélation, le dit Nissan. Vous savez que Moïse, comme le dit Tishri, Moïse est redescendu à Kippour. On est dans la révélation, le dit Nissan. Et puis le 14, on est dans la rédemption. 14 Nissan, c'est la sortie d'Égypte. On est dans ce 13, majorité, maturité, 13 plus 1. On est dans cette rédemption. On est dans une fête alimentaire, toujours le même problème. On passe par la bouche d'ailleurs, c'est une fête, on ne fait que manger. Pour pouvoir être Pessah, pour pouvoir parler, réfléchir sur ce qui rentre et ce qui sort, mais on doit féconder la parole. Entre parenthèses, Adam Arishon, il ne sait pas parler tant qu'il n'a pas mangé. C'est après avoir mangé qu'il parle à sa femme. Pessah, c'est ça. Et je suis invité à cette parole. Je privilégie un temps pour être des higas de talevincha, pour dialoguer avec mon enfant. Non pas être qui omro alechem benechem, pas être dans le sipour, dans le racontard, dans le conte, dans le récit de Pessah, sipour yitzat mitzrayim, parce qu'il faut passer par le récit, mais le récit non pas pour le sipour, mais pour être dans la Haggadah. Le nom de ce livre dans lequel nous lisons les prières le soir de Pessah s'appelle Haggadah. Ça vient de Hagid, parler. Non pas parler Dibour, non pas parler Amira, Omer, non pas parler Saper, non pas parler She'e en araméen, mais Haggadah. Et ce terme Haggadah de parole est extrait du texte de l'Exode où le père, Vigata Levincha, est invité à parler avec son enfant, son fils, physique ou spirituel, peu importe, à parler et à construire un échange, de construire, reconstruire la vie. Il n'y a rien de plus insupportable de passer la soirée de Pessah d'ailleurs, mièvre autour uniquement de la nourriture, parce que la nourriture est censé justement de nous réunir pour féconder la parole et non pas nous contenter des boulettes de matzot. Je referme la parenthèse. C'est ça, Pessah. Et donc, je suis en permanence invité à sanctifier le temps. La première mitzvah qui va s'adresser au peuple en tant que peuple, et le kiddush achodesh, la sanctification de l'année omini, la sanctification du temps, donner de la valeur au temps, qu'on lui conférait de la kiddusha, le kiddush, la sanctification, parce que rien n'est saint de par essence, à part le mont du temple, mais la terre n'est pas sainte, ça dépend ce que j'en fais, l'objet n'est pas saint, ça dépend ce que j'en fais, le sidour n'est pas saint. Ça dépend ce que j'en fais. Je peux prendre un sidour et marcher dessus. Je suis un peu dans les extrêmes, mais je l'ai vu faire. Pour un livre qui avait été utilisé non pas pour les dessins de la prière, mais, autrement dit, c'est l'homme avec un grand H, qui confère la sainteté aux choses, la kedusha, la valeur aux choses. C'est moi qui confère la valeur. C'est parce que j'ai sanctifié cette feuille que maintenant elle est sainte. Mais rien n'est saint de par essence, rien n'est saint. Moi-même, la kedusha, c'est quoi? J'aime bien répéter que la kedusha, c'est une dynamique, c'est un processus. Comme on dit dans le bouddhisme, hein, et on y est de nouveau dans ces dimensions du cheminement. La kedusha, contrairement à la pureté ou à l'impureté, la kedusha, la sainteté, ce n'est pas un état d'être, c'est une dynamique. Dieu me dit, soyez saint parce que je suis saint. Donc je passe ma vie à cheminer et à travailler pour gravir la montagne, et je ne suis jamais arrivé, et je n'arriverai jamais. Mais je tends. Je suis dans cet effort permanent du cheminement. Je ne peux pas m'arrêter de cheminer. Et quand je suis confronté à la douleur, le seul sens à la douleur, c'est de continuer à construire, continuer à cheminer. Il n'y a pas d'autre sens. C'est ça la kedusha. Rien n'est saint de par essence. Et donc l'homme est invité, le peuple hébreu est invité à être Mekadesh et Achodesh, de sanctifier le moi, la néoménie, et donc va décider du temps, contrairement au Shabbat. Le Shabbat est le septième jour de la semaine, que je le veuille ou non. Je travaille six jours, le septième jour, je cesse mon travail, parce que c'est le Shabbat l'Hachem, c'est Dieu qui fixe le Shabbat, on n'est plus dans le temps. Par contre, c'est l'homme qui fixe la fête, le moed, le rendez-vous avec Dieu. Évidemment, aujourd'hui, on a le calendrier. Autrefois, on dépendait des témoignages effectués au temple de Jérusalem. J'ai vu la nouvelle lune, et donc, quasi infime, quasiment inexistante, je l'ai aperçu, donc je vais vite l'annoncer. On va fixer le nouvel an juif. On aura fixé deux jours pour être sûr que le calendrier, tout le long de l'année, ne soit pas dans l'erreur. Mais c'est l'homme qui fixe le Rosh Hashanah. C'est l'homme qui fixe le Kippour. Si parmi les 71, j'allais dire 71, des formations, mais parmi les 71 personnes qui siégeaient dans le grand tribunal rabbinique dans le temple de Jérusalem, il y en avait un qui rouspétait, il disait « Non, je ne suis pas bien, il y a le lait qui déborde, demain ça ne m'arrange pas, on fait Rosh Hashanah après-demain. » On est obligé de repousser le Rosh Hashanah au lendemain. La fête, le Rosh Hashanah, où on demande pardon à Dieu, et on se cloque, et on pleure. C'est pas Kippour qu'on demande pardon, c'est Rosh Hashanah, accessoirement. Et passer le Kippour, évidemment Kippour est 10 jours après le Rosh Hashanah, a bien été tributaire de la fixation du temps par les individus. Je suis, nous sommes ceux qui conféreront la valeur au temps. Et donc, pour transcender le temps, je suis obligé d'être dans le temps. À tel point, la halakha, la loi juive, nos rabbins réfléchissent quant aux farines que je peux utiliser pour confectionner la matzah. Si on est limité par les 18 minutes, alors prenons une farine qui ne risque pas de gonfler, et puis comme ça je respecte scrupuleusement la halakha, la loi juive, et je fais mes matzot, mes pains azim, dans les temps. Et j'aurai ma matzah kasher, mon pain azim propre à la consommation, le soir de la Pâque juive. Non. Nos maîtres nous obligent à utiliser une farine qui fermente, une farine qui gonfle. Ça me rappelle toujours la publicité. Non mais une farine qui gonfle. Une farine sur laquelle le temps a de l'effet. Le temps agit. L'érosion du temps. Et c'est parce que le temps peut faire de l'effet sur cette farine que je vais veiller à ne ce qu'elle gonfle pas pour pouvoir l'utiliser, la mettre au four et l'utiliser le soir de Pessah. Autrement dit, il est tard, autrement dit, je suis obligé
d'utiliser une farine qui gonfle pour faire la matzah. Autrement dit, je suis obligé de m'inscrire dans le temps, je suis obligé de m'inscrire dans mon temps pour pouvoir le transcender. On va s'arrêter là, je pourrais terminer jusqu'à minuit, mais je veux conclure avec une merveilleuse idée de Lévinas, qui se trouve dans Difficile Liberté, et qui dit, pour être au-dessus du temps, il faut être dans le temps. Merci.
Merci beaucoup, Éric. C'était une grande leçon. C'est une grande leçon. Forcément, pour des leçons, il y a des questions. Je sais bien que vous en posiez. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser.
Merci pour ce beau Dvar Torah, cette parole de Torah. Et merci d'avoir pris le temps de nous parler du temps. Et surtout de nous parler de ce temps juif. Vous avez bien fait de parler de ceci. Abraham Yoshua Heschel, dans les bâtisseurs du temps, qui parlait du Shabbat, parlait déjà de ce temps juif. Léo Baek parlait de l'histoire juive et Stéphane Moses de la méta-histoire. Donc, le peuple juif s'inscrit beaucoup plus dans le temps que dans l'espace, donc c'est bien de nous l'avoir rappelé. Mais il s'inscrit aussi dans la question, et les maîtres du Talmud définissaient non pas l'homme tant comme un homme de parole, mais aussi comme un adamma, comme un homme de question. Et justement, il y a une exégèse, je ne sais pas si elle est de Mark Anavaklin, qu'on trouve chez lui, à propos de ce morceau de matzah que nous consommons à la fin du Seder, qui s'appelle l'Afikoman. Et il le traduisait non pas avec l'acception habituelle grecque qui est le dessert, mais il disait « voici le temps de la question ». Je reviens un peu à vos questions questionnantes, là. Vous n'avez pas parlé des quatre questions, Manishtana, ces quatre questions, et surtout la quatrième est passionnante, parce que c'est celui du petit garçon qui ne sait pas questionner, et chez qui il faut solliciter la question. Donc non seulement il faut questionner, mais aussi provoquer la question quelque part. Donc ça me semble très intéressant, et j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. Et la dernière chose que je voulais vous dire, j'étais passionné par votre exégèse de la cinquième plaie d'Égypte, avec ce dalet bet resh, ce dévers. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver, dans cette espèce de mise en évidence par le moed de cette plaie, la même explication que celle que Bernheim trouve dans l'explication de la lèpre, en disant que ce n'est pas une vraie maladie, mais c'est un mésusage de la parole, justement. C'est lorsqu'on mésuse de la parole, lorsque les gens qui, comme Aaron ou Myriam, sont censés bien parler et qu'ils parlent mal, que la lèpre ou la peste les frappe. J'aime beaucoup Bernheim. Hein. Qui, évidemment, j'abonde dans votre sens. Hein. Et c'est vrai que pour la peste, c'est tellement fort que tout le peuple attend la fin de la maladie de Myriam, attend la fin de cette Sarahat pour pouvoir repartir. Parce que dans tous ces stationnements, le peuple hébreu doit attendre et est invité donc à continuer son chemin. Myriam tombe malade de la lèpre, entre guillemets, de la tsaraat, comme disaient mes maîtres, tsar aïn, l'œil qui voit petit petit. Quand on voit petit petit l'autre, tsaraat, hein, c'est un jeu de mots aussi pertinent, eh bien le peuple tout entier doit attendre la fin de la tsaraat de Myriam pour pouvoir repartir. Parce que c'est une leçon pour elle, mais c'est avant tout la leçon pour tout le monde. Et on est toujours dans ce rapport à l'autre, et dans ce rapport à l'humilité. Dans ce rapport à l'humilité, parce que le peuple à la mort de Aaron, le peuple pleure et continue son chemin, et quand par hasard, il y a les Canaanites, un peuple dénommé Canaanites, mais les commentaires disent que ce n'est pas Canaan, c'est Amalek qui s'est déguisé en Canaanites, vient les attaquer. Et chaque fois qu'Amalek apparaît, c'est qu'il y a un problème. Chaque fois que Amalek apparaît dans la Torah, c'est qu'il y a un problème interne. Je dirais même plus. Amalek n'est même plus un épiphénomène, c'est un problème intérieur. Entre parenthèses, j'avais un Rav Monak que je citais tout à l'heure qui disait, quand on parle d'Amalek au début, à la fin de Shalach, au début de l'Exode, lorsqu'on parle de la guerre contre Amalek, Amalek fait la guerre contre le trône céleste, c'est marqué Midor Dor, Akesh Ya Midor Dor, que la guerre d'Amalek est une guerre Midor Dor, de génération en génération, à chaque génération. Et à chaque génération, on en a déjà parlé, à chaque génération en hébreu se traduit pas par Midor Dor, mais se traduit par les Dor Vador, à chaque génération, les Dor Vador, on est parmi ça. À chaque génération, les Dorvador. Et on traduit par « il faut faire la guerre contre Amalek » parce qu'Amalek se bat contre Dieu à chaque génération. Et Rav Monak qui me disait « non, 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 relis le texte, c'est marqué pas les Dorvador, mais c'est marqué « mi Dor-Dor ». Deux générations à génération. « Mi », le même, c'est la préposition « de » qui signifie « d'une génération à l'autre ». Le problème, c'est pas la génération. Le problème, c'est comment je passe d'une génération à l'autre, comment je passe le relais. Le problème, c'est l'articulation entre les deux. La génération en soi n'est pas malade. Et comment je transmets et comment je passe le relais, dans toute humilité, là est le problème. C'est ça, Amalek. Ce n'est plus un épiphénomène, c'est un problème en nous. Et donc la difficulté de l'humilité, c'est que le peuple hébreu va partir, et bizarrement, on nous annonce deux lieux différents où Aaron a été enterré. Et quand on cherche bien dans le Talmud, on se rend compte qu'en fait, le peuple hébreu a dû faire 3 stations en arrière. Non, 7 stations, pas 3, 7 stations, ils ont dû rebrousser le chemin en direction de l'Égypte parce qu'ils avaient oublié de faire le Hesped, l'oraison funèbre de Aaron. Non pas que l'oraison funèbre était nécessaire pour Aaron, ils ont pleuré Aaron. Une oraison funèbre sert pour les gens qui sont là, pour les vivants, pour qu'ils puissent se remettre en question, pour fuir, comme dirait la psychanalyse, la toute-puissance, et se remettre en question, parce que le questionnement, c'est ça, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui me dépasse, religare, peu importe comment je l'appelle, moi je l'appelle Dieu, mais dans la mesure où je reconnais qu'il y a quelque chose qui me dépasse, je suis dans la mesure du possible, dans l'humilité. C'est cette humilité que j'essaie de recouvrir à travers l'esprit de Aaron et à travers toute l'histoire de Myriam. Quand vous parlez du quatrième fils, le quatrième fils se dit chez Eno Yodéa Lishol. Eno Yodéa Lishol, qui ne s'est pas posé de questions d'ailleurs, c'est marqué en plus dans la Haggadah, At Petarlo, c'est toi qui dois lui parler. D'ailleurs, At est au féminin, c'est toi donc, mère, femme, qui dois apprendre à ouvrir la bouche aux gens. D'ailleurs, la femme procrée, comme dirait Marc-Raphaël Gage, la femme est inspirée, elle n'a pas besoin de prier, elle est dans cette immédiateté avec le divin. L'homme est contraint à la prière pour essayer de créer. La femme n'a pas besoin de créer. Procréer, c'est permettre à l'homme de créer. La femme est au-dessus de tout ça. Et donc, le scénario d'Ali Shol, la femme va permettre à la parole d'exister, parce que l'homme en est incapable. Et chez Eno Yodé Ali Shol, si je les prends séparément, Eno c'est la négation, Yodéa c'est la toute-puissance, le savoir. On ne fait rien avec le savoir. C'est pas parce qu'on sait qu'on est dans la Chorma. Regardons 60 ans en arrière, on était confronté à des individus qui avaient la connaissance. La connaissance ne fait pas tout. C'est parce qu'on a le savoir qu'on est un homme. La chorma, n'est pas le savoir. Yedia, c'est le savoir, et Chochma, c'est la sagesse. Chochma. Autrement dit, Koachma, la force du questionnement. La force de l'humilité, de pouvoir se remettre en question et de se dire, je ne suis pas arrêté dans ce que je sais. D'ailleurs, plus on essaye d'apprendre, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et donc, forcément, on est dans la question. Chez Eno, on est dans la négation. Yodéa, on est dans le savoir. Et Ishol, on est dans le Sheol, c'est l'enfer. Quand on est dans l'un ou dans l'autre, totalement, c'est le Sheol. C'est l'enfer. Et je pourrais vous en parler encore pendant des heures, parce que de ce Sheol-là et le Sheol de Jonas, je laisse le micro.
Je vais revenir sur ce questionnement, cette dynamique de la question. C'est aussi accepter une absence de réponse. C'est une prise de risque, se poser beaucoup de questions. Et la vie, le mouvement se fait par le risque. Quel est le risque de la question? C'est souvent de ne pas avoir de réponse. Ou, vous me direz ce que vous en penserez, dans la question va entraîner une autre question, et dans la question, la formulation même de la question, c'est une ébauche de réponse. Les questions ouvrent, et le danger, si nous reprenons l'histoire de l'humanité, c'est qu'on s'est trop focalisé sur des réponses. Les réponses enferment, les réponses bloquent, freinent, stérilisent la pensée. Je dirais même que la dynamique de la question, c'est un processus de liberté de pensée. Le questionnement amène à la liberté de l'homme. Les réponses, souvent, vont l'enfermer. C'est toute la différence entre les idées et l'idéologie. Les questions vont nous amener à trouver des idées, parce que l'idée est un acte créateur. Mais on va avoir à chaque époque de notre histoire cette tentation, quand on a des idées, de les transformer en idéologie. Et vous le savez, depuis des siècles, nos civilisations sont des spécialistes d'idéologie. Je crois que c'est très important. Le processus de questionnement, c'est la garantie fondamentale de notre liberté. C'est comme cela qu'on arrivera vers Dieu, je pense.
Oui, j'en avais.
Alors, ma question, me semble-t-il, la pensée adogmatique, et qui est la véritable pensée qui, à mon avis, nous amène à Dieu, c'est la pensée par le questionnement. Alors, ma question, c'est le processus de questionnement, je le trouve au service de la liberté pour dialoguer vraiment avec Dieu. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce principe?
Je ne peux être que d'accord. Vous connaissez la blague? Non, mais vous connaissez la blague, non, pas du tout. C'est fondamental. Vous connaissez la blague de cette personne qui demandait à un juge, pourquoi vous voulez juste, chaque fois que vous me posez une question, vous nous répondez par une autre question. Et le juge doit répondre, et pourquoi pas. Il y avait dans la synagogue du Kotzker Rebbe, un beau matin, un siège dans la synagogue du Kotzker Rebbe, à sa droite, un siège qui était en permanence occupé, un siège qui un beau matin était vide. Le Kotzker Rebbe se retourne et puis il cherche ce juif qui était assis à côté de lui, puis le voit au fond de la synagogue, à côté de la porte, à l'entrée. Puis il vient, il fait, mais Pourquoi t'échappes-tu? Reviens à ta place. Moi, j'ai un gros problème. Alors dis-moi, c'est quoi ton problème? Je ne sais pas si Dieu existe. C'est la cote que tu réponds. Maintenant, tu viens t'asseoir à côté de moi. Puis, je terminerai avec une troisième histoire. C'est de Chassidim qui réfléchit toute la nuit, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Et il passe la nuit entière à s'arracher les cheveux, ce qu'il en reste, et la barbe. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Et au bout de la soirée, le soleil commence à sortir, ils ont décidé que Dieu n'existe pas. Et puis, il y en a un d'eux qui prend un verre, il commence à faire une bénédiction avant de boire. Et l'autre, il dit, mais attends, tu fais quoi là? Mais Dieu n'existe pas, d'accord, mais je ne vais pas ne pas faire de broche ce vin, hein. Je ne peux pas ne pas faire de bénédiction sur mon verre d'eau avant de le boire. C'est-à-dire qu'il y a une prière, une très très jolie prière à la fin du samedi matin, dans le Moussaf, qui dit « En kiloino, en kadonino, il n'y a pas comme Dieu, il n'y a pas comme notre roi ». Et le texte est très très curieux parce que le texte nous dit « Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas comme Dieu, Dieu est là, c'est un postulat ». Et ensuite, le texte vient nous poser la question « Mi, c'est qui? Est-ce qu'il existe ?» Le texte a d'abord posé les choses. Et ensuite, on bouscule un peu nos idées et on se pose des questions. Voilà, je terminerai par une quatrième dernière histoire. C'est mon père qui m'avait raconté quand j'étais gamin. C'est un chidour, c'est un mariage arrangé qui a lieu à Gateshead. C'était en Grande-Bretagne, en Angleterre, et Gateshead fait partie des plus grands yeshivot qu'il y a eu après la guerre. Et puis il y avait également un établissement talmudique, un établissement d'études tant pour les filles que pour les garçons. Et puis il y a un jeune homme qui vient voir le rabbi Gateshead, j'oublie son nom. La prochaine fois je vous le donnerai. Et qui vient voir, qui dit j'ai un gros problème parce qu'on m'a proposé un chidour avec une fille et elle n'arrête pas de poser des questions. Vous savez ce que c'est un chidour? C'est un mariage arrangé. On m'a proposé de me marier avec une fille, mais elle n'arrête pas de poser des questions. Il sort véridique. Le rabbin de Gateshead, à l'époque, de répondre, poser des questions, c'est être intelligent. Et être intelligent, c'est la première mitzvah de la Torah.
Tu nous as dit, Eric, que c'était la dernière blague, mais pas peut-être pour le questionnement. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de poser des questions. Albert, à nouveau.
C'est trop bon de rencontrer un Ashkenaz et qui parle hébreu avec l'accent de chez moi. Enfin. Je reviens un peu à ce grand télescopage du passé et du futur dont vous avez très bien parlé à propos de l'étymologie. Et Pessah, c'est le type même de la cérémonie, de la fête, où on parle du passé en investissant déjà le futur, sans passer par la case présent, puisqu'on va préparer cette coupe de vin pour le prophète Élie, en espérance étant messianique, on va chanter le Shana Abba Birushalayim, bien évidemment, donc on est un peu dans ce futur. Et à cet égard, je rappelle souvent cette réponse de Singer, l'écrivain, on lui disait « Mais pourquoi votre écriture est imprégnée du passé ?» Il disait « C'est pas compliqué ». Les gens qui écrivent en français ou en anglais, qui écrivent de gauche à droite, à chaque page qu'ils ouvrent et qu'ils vont écrire, eh ben c'est du futur qui vient de passer. On la recouvre de la page écrite. Alors que moi qui écris de gauche à droite, de droite à gauche plutôt, chaque fois que je soulève une page, c'est du passé qui me remonte à la figure. Et je crois que ça, c'est tout à fait typique du temps de Pessah, où ce passé nous revient à la figure pour construire l'avenir. Mais je vais vous poser quand même une colle. Vous parliez de l'urgence des mitzvot et de ce temps un parti qui est bref et qui doit nous bouger. Et qu'est-ce que vous faites de ce Pessah Sheni du 14 Iyar, ce cette possibilité pour ceux qui sont en Touma, qui sont en impur, ceux qui sont loin, ceux qui sont en prison, de faire un petit Pessah quelques temps après.
Il a encore ce Pessah Sheni, c'est le deuxième Pessah pour ceux qui n'ont pu le célébrer le mois de Nissan. Qui a une application aujourd'hui? Quelqu'un qui a été empêché en cas de force majeure, on peut faire son seder le 14 Iyar, donc un mois après. C'est une convenance, c'est écrit dans la Torah, donc ce n'est pas les rabbins qui ont arrangé, mais c'est une loi divine et qui permet à tout un chacun de célébrer la liberté. Parce que la liberté et donc la responsabilité. Parce que c'est cette liberté qui est fondatrice. La sortie d'Égypte, cette sortie est constitutive du peuple. On est dans le nouvel an historique, contrairement au nouvel an juridique de Tichri. On est dans l'histoire et dans la création de l'histoire du peuple en tant que peuple. Il est évident que la personne qui n'a pu marquer, tracer cette empreinte puisse le faire un mois après. On a plus peur de la liberté que de nos chaînes. Je peux qui disait ça, je crois que c'est un auteur anglais ou américain, je crois Eric Fromm. Ouais.
Je me mets un peu à la place de certaines personnes. Oui, je vous donnerai après. Je me mets à la place de certaines personnes pour qui ça doit être assez difficile d'entendre ce qui a été dit ce soir, parce qu'il y a toute une culture, il y a beaucoup de mots hébraïques, même si vous avez très très bien traduit tout. Mais je vous dire aussi, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été dit? Alors, moi, je voudrais revenir sur un aspect très humain. Vous avez parlé, tu as parlé un peu de psychologie, finalement, d'attitude de l'être humain. C'est une transformation de l'homme, Pessah. Wachnin le dit, le soir de Pessah, et surtout au dernier moment, l'homme est transformé. Effectivement, il est allé dans son passé, le passé lui est revenu, il était présent dans ce qu'il faisait, mais un présent qui est toujours avançant, et puis il est pour aller dans son futur. Et c'est une transformation incroyable, la même transformation sans doute que la matzah, la même transformation qui se fait avec la manne, la même transformation de la traversée du désert. Et je pense que ce qu'il faut peut-être vraiment garder en soi, c'est que ce qui nous est donné dans la Torah n'est que sans arrêt un cheminement, une transformation de nous qui nous sommes. Comment vivons-nous? Que sommes-nous et qu'allons-nous devenir finalement? Et je pense que ça, c'est vraiment, avec très beaucoup de simplicité, je le dis, et c'est pas si compliqué que ça pourrait l'être quand on écoute un maître, parce que ce soir c'était vraiment un maître qui est là et qui nous fait une leçon. Et je pense que c'est pas simple à entendre, mais ça peut être simple à vivre à condition d'observer tout ce qu'on a observé. Et je pense pas seulement dans la Torah. Pour vous, amis chrétiens, c'est aussi dans les évangiles, c'est le chemin. C'est le chemin.
Mais tu m'as presque devancé, Yann. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Ça volait haut. Et j'ai retenu une phrase, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous avez dit « aller vers l'autre, tout autre qu'il soit ». Est-ce que j'ai bien écouté? Est-ce que vous pouvez préciser? Je reviens sur terre, là.
C'est quoi l'autre s'il n'est pas autre? Moi, je m'amuse actuellement parce qu'on m'a interrogé, la RCF m'a interrogé là sur les minarets. Moi, je ne peux pas voter, parce que même si j'habite en Suisse, je reste français, habitant à Genève. Mais je demeure français. Mais ceci dit, c'est cette question sur les minarets ou sur d'autres choses, c'est tous les problèmes de deal qu'il y a actuellement dans Genève. Moi, je trouve ça très très malsain qu'on ose se poser ce type de questions. Parce que l'unité passe par la différence. Je ne peux pas être dans l'unité si je ne compose pas dans la différence. Pas l'indifférence, la différence. Et le message de la Torah, message permanent, c'est autour de cette différence. Pas sur l'autre rive, pour enseigner la différence. Et pour retrouver l'unité. Je ne peux pas retrouver l'unité si je ne suis pas dans cette richesse des différences qui m'entourent et qui composent le monde. C'est très difficile, mais je trouve ça tellement malsain qu'on se pose ce type de questions au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression de revenir en arrière. Il y a une place pour chacun, et c'est parce que justement le pays est laïque qui doit permettre le respect du culte de chacun et de permettre à chacun d'être. Ce n'est pas antinomique, bien au contraire. C'est ça la richesse de la différence. Aime ton prochain comme toi-même, c'est de ça dont on a parlé la dernière fois que j'étais dans cette salle. Eh bien, c'est permettre justement à l'autre d'être tout autre, le plus autre possible, c'est ça l'autre. Et va'asta l'ereacha kamocha, eh bien, c'est non pas de faire du clonage et de l'aimer uniquement parce qu'il pense comme moi, mais bien au contraire. Parce qu'aimer son prochain comme soi-même, on en a parlé ici dans cette salle l'année dernière, ça a fait des millions de morts. Parce que comment je peux l'aimer s'il ne pense pas comme moi? Donc je t'aime, donc je te tue. Si je t'aime, je te tue. Ve'ata le'reacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas ce qu'il y a écrit dans le texte biblique. Le'reacha. Pour, en direction de lui. Pas être, on n'est pas dans le transitif. L'est, en sa direction. Tout autre qu'il est. C'est ça l'unité, et c'est rien d'autre. Contrairement à la tour de Babel, où on a cette unité qui finalement n'est pas une vraie unité. On a une union qui force, comme nous disait le Midrash, le respect de Dieu, lui-même, si je puis dire. Dieu ne va pas détruire la terre. Dieu ne va pas détruire la terre. Les individus sont incapables de communiquer entre eux. C'est comme Sodome et Gomorre, comme le Maboul. Bon, c'est détruit parce qu'il y a... Non pas qu'il n'y a pas la loi dans Sodome et Gomorre. Dans Sodome et Gomorre, il y a la loi. Lot, le neveu d'Abraham, est le chef du tribunal de la ville. C'est marqué en toutes lettres. Yoshev Beshar Vahir. Il est assis à la porte. Et on sait très bien que ceux qui sont assis à la porte, ce sont ces chauffettes, ces juges qui siègent au tribunal. C'est le cas de Lot. Et le Dvinsker Rebbe qui nous dit le Mishpat existe à Sodome et Gomorre. Il n'y a pas la Tzedaka. Il y a le Mishpat, il y a la loi, il y a la justice, il n'y a pas la Tzedaka, il n'y a pas l'élan vers l'autre. Comme dirait Gilles Bernheim, le souci des autres. Ce souci des autres signifie la recherche active du bien de l'autre sans attendre de retour. C'est ça la Tzedaka. Et le meilleur sans retour, c'est d'accompagner une personne à sa dernière demeure, parce qu'il ne peut pas nous dire merci. Ça c'est la Tzedaka. C'est l'humain par excellence, avec un grand H. Abraham, c'est marqué Tzedaka ou Mishpat. Tzedaka ou Mishpat. Relisez le texte de la semaine dernière. Abraham est doté de Tzedaka ou Mishpat. Il a le Mishpat et il a le Tzedaka. Parce que son Mishpat, sa loi l'amène à l'humain. On va dire la même chose pour David Améler. Quelques années après, pour le roi David, c'est marqué Mishpat ou Tzedaka. D'abord, on pose la loi, mais on ne s'enferme pas dans la loi parce que la loi doit me conduire vers l'humain, doit me conduire vers l'autre. Il y a le Mishpat dans Sodome et Gomorrhe, mais il n'y a que le Mishpat. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, nous dit le Talmud. Ça, c'est le principe de Sodome. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est voué à l'échec. La tour de Babel, les hommes sont unis contre Dieu, mais les hommes sont unis. Même si c'est contre Dieu, Dieu ne détruit pas la tour de Babel. Parce qu'ils sont unis. Ce n'est pas l'oignon qui fait la force, c'est l'union qui... Mais le problème de Babel, c'est qu'on met dans la fournaise ceux qui ne pensent pas comme le roi Nimrod. Abraham en sort. Son frère en est mort. Comme disait mon père, ein Volk, ein Reich. On s'assoit, je veux dire, on se plie au desiderata de Nimrod pour pouvoir construire cette tour, et ceux qui ne pensent pas comme le roi finissent dans la fournaise. Bilvenim, c'est Pierre. Eh bien, ces pierres, on pouvait les sortir du four parce qu'il y avait des êtres humains qui brûlaient dedans. Le but, c'était la pierre. Je referme la parenthèse. Mais pour dire que cette unité va jusqu'à forcer le respect du divin. C'est pour ça que cette tour n'est pas détruite. Parce qu'il y a cette unité-là. Ça va très très loin. C'est quoi le rapport à l'autre?
Alors, je ne voudrais pas jouer les troubles faits, mais puisqu'il a été question à plusieurs reprises du Maharal de Prague, je vais me placer quelques secondes sous son autorité. Je voulais revenir à ce que Jean-Albert disait à propos des questions et des réponses. Alors, je crois qu'on est tous d'accord effectivement sur l'importance des réponses, etc., mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la question, ça peut être aussi une idéologie. L'idéologie n'est pas seulement du côté de la réponse. On peut s'enfermer évidemment dans les réponses, mais on peut aussi s'enfermer dans les questions. Et d'ailleurs, j'ai apprécié que vous disiez, c'est très malsain qu'on se pose ce type de questions. Il y a des questions, effectivement, qu'on ne devrait pas se poser. Ça peut s'appeler le nihilisme, ça peut s'appeler le révisionnisme, etc. Nier l'évidence, voilà. Donc je crois que la position juste, c'est celle du Maharal de Prague, c'est le Emsa, c'est le milieu. C'est que, ça me fait penser à ce que vous disiez sur la spirale ascendante tout à l'heure. Il y a une question qui doit déboucher sur une réponse, qui doit amener une nouvelle question, etc., etc. Et c'est ça qui nous fait monter, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on parlait de l'entre-deux, entre la question et la réponse, et puisqu'il a aussi été question beaucoup des Pirkei Avot, j'aurais bien aimé que vous nous disiez un mot de ce temps particulier dont parle une Mishnah du chapitre 5, qui est le Ben Hashemashot. Voilà, dans cette Mishnah, il est question de 10 choses qui ont été créées lors de la création, juste le soir avant Shabbat, la veille de Shabbat, et donc dans ce que le texte appelle Ben Hashemashot, c'est-à-dire le crépuscule entre les soleils, quoi. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ce temps très particulier? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ait choisi ce moment-là pour créer 10 choses?
Oui, effectivement, différentes choses qui ont été créées, merci, dans ce temps crépusculaire, comme la bouche de l'âne de Bilam, comme le puits. Il y a différentes choses, mais il faut retrouver le texte. Pourquoi dans ce moment-là précis, je ne sais pas. Comme la bouche de la terre qui s'est ouverte pour Korach et les siens, qui s'étaient rebellés contre Moïse. Il y a différentes choses qui sont hors temps, qui ont été créées à ce moment-là, qui correspondent ni au jour ni à la nuit. Je réfléchis à haute voix, parce que on n'est pas dans le temps. Une terre qui s'ouvre, ce n'est pas la vie. Un âne qui parle, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. On est dans quelque chose qui est extraordinaire, surnaturel. On n'est pas dans la nature des choses. Et cet extra-naturel est créé à ce moment-là pour des buts bien, bien spécifiques. Et je dis, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup étudié ce texte-là et je ne comprends pas grand-chose. Voilà, on est... Dieu va créer la nature sous son nom de Elohim, qui est le Dieu de justice, ce Dieu implacable. Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Ce n'est pas le tétragramme, ce n'est pas le Dieu de miséricorde, c'est Elohim. Parce que la nature doit être binaire. C'est blanc ou c'est noir. La nature doit répondre à cela. L'homme ne peut pas trouver sa place dans cette nature, dans ce teva. Donc Dieu va s'adresser à l'homme en tant que Amonai Elohim, le tétragramme qui est en même temps Dieu de miséricorde et Dieu de justice. Pour céder de la place à l'homme et lui laisser la place pour lui permettre de créer à son tour. C'est ce fameux Lansot. Et ces objets qui ont été créés ben Hashmashot sont entre les deux. Maintenant, c'est quoi la miséricorde? Ça n'a rien à voir avec votre question. J'aime bien répéter que la miséricorde, on connaît tous l'origine de Rachamim, terminologie, Rechem, c'est le fœtus, c'est la relation fœtale entre la mère et l'enfant. C'est ça la miséricorde. La miséricorde est une traduction complètement trahison. Parce que Rachamim, ça c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit ça, et je trouve ça magnifique. La vraie miséricorde, c'est quand on rigole pour son prochain comme on pleure pour lui. Parce que pleurer pour quelqu'un qui tend la main dans la rue, si je suis normalement constitué, j'ai de la peine pour lui. C'est possible que je ne sois pas normalement constitué, que je ne ressente absolument rien pour la personne qui tend la main. Mais logiquement, tous les êtres sur Terre sont touchés face à une main tendue. Et donc on a peut-être plus de facilité à pleurer qu'à rigoler. C'est pour ça que les chassidim se battent pour remettre non pas du bonheur sur terre, mais de la joie sur terre, pour pas mélanger le bonheur et la joie. Mais c'est d'être joyeux pour rire, parce que le rire, c'est le chir, c'est le chant, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Et Shimshon Raphaël Hirsch nous dit qu'il est plus difficile de rire que de pleurer pour l'autre. Quand on est capable de rire comme de pleurer, alors on est dans ce rachamim, dans cette relation fœtale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mon enfant, si mon fils vient avec une bonne note de l'école, ou s'il vient en montrant qu'il a eu son bac, moi j'ai sauté de joie, je vais faire sa fête, et puis je veux pas seulement... Parce que c'est vrai que pleurer, qui pour, etc., tout ça, c'est très facile de... J'exagère peut-être, mais c'est très facile de pleurer. De toute façon, qui pour, on a toutes les conditions réunies pour pleurer. Hein. Donc c'est, je veux dire, vous ne mangez pas, vous êtes sans chaussures de cuir, vous avez tous les signes de richesse laissés écartés à la maison. On a tout ce qu'il faut, on ne fait que prier de matin au soir. Celui qui ne pleure pas à ce moment-là, c'est que voilà. Donc pleurer, c'est facile. Mais est-ce qu'on sait rire pour l'autre? Si moi, je viens vous annoncer que j'ai gagné 10 millions au loto, est-ce que vous allez rire pour moi de la même manière que vous allez pleurer pour moi si je vous tends la main? C'est ça, Rachamim. D'être capable de rire pour l'autre. Et d'être heureux pour lui. Ah, ça a l'air facile. Ça, c'est Rachamim. Dieu de miséricorde.
Moi, c'était dit, mais je voudrais vous remercier moi aussi pour la parole féconde qui nous a rappelé en particulier que nous devons être constamment dans la question, et notamment la question de savoir comment nous attacher à féconder le temps. Je voudrais aussi, alors je sais que c'est pas forcément l'heure de le faire, mais bon, il y a une phrase qui m'a interpellé, une phrase qui me fait peur dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que le mont du temple est saint. S-A-I-N-T. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qui lui octroie son caractère de sainteté et pourquoi j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que ce lieu, il y a plusieurs qui considèrent qu'il est, non pas tellement qu'il est saint, mais qu'il est sacré. Et Lévinas faisait bien la différence entre la sainteté et le sacré. Il aimait beaucoup, il se réjouissait de la sainteté et il avait en horreur le sacré. Parce que, en fait, ce mont du temple, qui porte différents noms selon... on considère que c'est le lieu sacré pour soi-même, pour sa confession, et que l'autre n'a pas sa place.
Vous me ferez jamais dire une chose pareille. Oui, effectivement. Le lieu est saint, il est saint pour beaucoup de cultures et beaucoup de religions, évidemment. Il est saint et il a une sainteté par essence qui ne me permet pas de marcher dessus. Jusqu'à quand, peu importe. Mon problème n'est pas de savoir quand le Messie va venir. Comme disait un rabbin célèbre, on s'en fout quand il viendra. Je ne vais pas le nommer parce que c'est pas forcément une expression. Je l'ai entendu dans la salle hurler. Mais on s'en fout quand il viendra. Eh bien, voilà. Ce qui compte, c'est de s'occuper des vivants et de s'occuper du monde dans lequel on est maintenant. Hic et nunc. Il y a une sainteté propre à ce monde qui m'empêche de le fouler parce que il résidait sur cette montagne, il réside aujourd'hui à la mosquée d'Omar, et puis était sur cette montagne le temple de Jérusalem avec le Saint des Saints et avec les objets qui ne me permettaient pas de et sous certaines conditions, etc. Il y avait l'arche sainte, il y avait différents objets saints qui étaient sur ce mont dans le Beth Amidash. Aujourd'hui, le Beth Amidash n'existe plus, le temple de Jérusalem n'existe plus. Ben, je ne vais pas m'enfermer dans cette problématique. Ce qui est fondamental pour moi aujourd'hui, c'est de savoir que rien n'est saint. Accessoirement, ce lieu est saint. Mais sinon, géographiquement, rien n'est saint. Et rien n'est saint à tel point que la terre peut me vomir si je me conduis de travers sur elle. Ça veut dire quoi? Et on l'a vu, l'histoire nous l'a montré. Je donne la valeur aux choses. Les choses ne sont pas saintes par elles-mêmes. Rien. Mais absolument rien. De temps en temps, quand je suis à Strasbourg, ma ville natale, je me promène dans les villages alsaciens autour. On voit des synagogues qui ont été transformées en granges ou en casernes de pompiers. On voit encore quelques inscriptions dans la halakha, dans la loi juive. Rien ne s'érige contre cela. Je peux très bien prendre un lieu dans lequel je prie ou j'étudie, préférence étudier, puis le... Je dis ça parce que je suis un partisan du culte, que je suis moi-même ministre officiant. Et comme disait l'autre, il y a des copies occultes qui se perdent. C'est qu'on on a réduit la religion au culte. Le problème, c'est pas le culte, le problème, c'est la vie. Qu'est-ce que je fais de l'autre? Qu'est-ce que je fais de moi? Où je suis? Suis-je capable de me recentrer, de retrouver cette unité à laquelle j'aspire? Un vaste programme.
Merci beaucoup pour cette réponse qui devrait être adressée à tous ceux qui prennent la Bible pour un cadastre. Je crois que c'est une chose qu'il faut dire. Il faudrait dire aussi à propos du sacré, comme le rappelle Arvind Mandel dans son histoire du chassidisme, il dit qu'il faut savoir, comme les chassidim, sacraliser le profane et profaner le sacré. C'est très salutaire, disent les chassidim. Je reviens un peu à notre Pessah, et un tout petit peu à Lévinas, que vous avez eu le bonheur de citer. Nous l'adorons tous, bien sûr. Les Juifs quittant l'Égypte, quittant le pays étroit, quittant Mitzrayim, ce pays de l'étroitesse, ce pays où on leur faisait faire des murs, hein, puisque leur harosset nous rappelle ce mortier, ce pays où on était enfermé, on enfermait les gens, les richesses, où ils n'avaient pas d'autonomie propre, où ils étaient que des fourmis, quoi, que des éléments d'une grande ruche. Ce pays que je dirais celui de la totalité, est-ce que peut-être... Si on avait une lecture moderne de Pessah, on ne rejoindrait pas cette étude de Lévinas entre totalité et infini. Est-ce que l'Égypte ne quitte pas la totalité, le monde totalitaire, pour aller vers l'infini, c'est-à-dire ce monde de l'intelligence, de la promesse et de l'espérance?
Je vais me lever pour être un peu errant. Hein. Si par hasard, je ne sais pas s'il existe sur Internet, il y a un très très beau texte de Claude Rivlin qui date il y a 20 ans, qui est doyen de la faculté, je crois Paris, je ne sais plus combien. Claude Rivlin qui a pour thème nomadisme et nomade et sédentaire. Le juif est nomade, il apprend à être sédentaire en Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que c'est la plus grande puissance de l'époque. Pour apprendre, comme diraient les Grecs, à construire sa pensée, je dirais à construire tout court. Les mathématiques sont nées en Égypte. Pythagore est égyptien. La Gemara nous dit dans le Sanhédrin que le juif plante d'abord sa tente. Sa tente, T-E-N-T-E, et doit se frayer son chemin entre elles, alors qu'en Égypte, on construit d'abord les routes, on construit la ville, et après, on peut... Pourquoi l'Égypte? Parce que les Égyptiens utilisaient les crues du Nil pour drainer l'eau jusqu'aux confins de la terre et irriguer les terres lointaines qui étaient complètement déserties. C'est comme ça que les mathématiques sont nées. Et c'est pas gratuit, la Gemara est très très prolixe là-dessus, c'est pas pour rien que les Hébreux descendent en Égypte et pas ailleurs. C'est le lien entre Ohevet Amo Israël, Yotzer Amorot. C'est entre l'humain et la nécessité également de s'ancrer dans une réalité. Mais pour autant que cette réalité, que ce système, parce qu'on est beaucoup dans les systèmes aujourd'hui, on n'arrête pas les critères d'évaluation, les systèmes à gogo, il y a tout un qui vient d'Amérique là, et puis on passe son temps à faire des tableaux, à faire des évaluations, et puis après des colloques des évaluations, puis il y a l'évaluation du colloque qui a fait l'évaluation du dernier colloque. On passe notre temps à faire du système. C'est une maladie, typiquement, ça nous évite d'aller nous confronter à l'humain, et d'aller se parler d'ailleurs, avec ça. Moi, c'est une question. Et donc, Claude Rivlin nous dit pourquoi il faut repartir de l'Égypte. C'est nécessaire de passer par l'Égypte parce qu'elle nous apprend à poser les choses, mais il faut puiser de cette dimension sédentaire pour ensuite repartir. Mais ça participe de sa constitution et repartir en Canaan. Et Claude Rivlin, j'aime bien l'évoquer, il écrit « Regardez les fresques égyptiennes. À part le pharaon, tous les hommes ont la même tête. Ils ont tous le même visage. » C'est pas nécessaire de monter jusqu'à l'Antiquité, là. On regarde, on a fêté la chute du mur hier. Le communisme, c'est ça, on a des numéros. Mais, système de planification, pour que tout le monde ait la même chose. Autrement dit, pour que tout le monde n'ait rien. Les fresques égyptiennes, c'est ça. Et c'est Claude Rivine qui mentionne justement ces problèmes des visages. Les visages, regardez, et c'est pas pour des questions de simplicité, de fabrication, parce que l'art est très 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 puissant. Et il n'y a que le pharaon qui est différent, qui a le droit, qui est au-dessus et qui domine dans la toute puissance. Alors l'Égypte, oui l'Égypte, Mitzrayim, cette étroitesse à laquelle on s'est frotté et à laquelle il faut nous en extraire en nous tirant les cheveux, comme dirait le Tiferet Israël, parce que il est temps d'aller vers l'humain.
Quelque chose de très simple. S'il vient de papa. Naturellement, l'être humain donc est toujours c'est le problème l'un envers l'autre. Je trouve que j'arrive certainement bien vers la fin de mon existence ici-bas, et de plus en plus j'ai constaté que constamment toute sa vie on se trouve pour la première fois dans une situation sans expérience, que d'autres ont peut-être eu, mais que leur situation était une autre. Donc il faut aborder cette situation-là, et on peut de chacun selon qu'il fait. Mais je ne voudrais pas longtemps parler là-dessus de la façon dont chacun le fait. Je trouve uniquement de savoir que pour chacun, c'est la même loi. Il a souffert hier, ou il souffre aujourd'hui, ou il souffre demain, d'une autre façon. Et en fin de compte, chacun est seul. Et savoir que chacun se trouve seul en face de son existence, c'est ça qui devrait nous donner l'unité et le sens d'être proche de l'autre, de le respecter, mais tout de même d'être proche de l'autre. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée ou pas.
J'abonde dans votre sens. Le problème de... Ne confondons pas solitude et isolement. Parce que l'isolement tue, pas la solitude. La solitude est une ressource. Quand la solitude dure trop longtemps, ça devient un isolement. Pourquoi je dis ça? Parce que la loi m'amène à créer du lien et me conduit vers l'autre pour être dans le social, dans ce lien-là. Vital tant pour moi que pour un bébé. Les expériences cliniques ont prouvé que si vous nourrissez un bébé mais vous l'isolez du monde, il se meurt. Vous le nourrissez avec toute la tuyauterie possible, mais sans contact avec l'autre, avec un grand A, cet enfant se meurt. Pourquoi? C'est le problème de l'isolement. Et l'isolement, on le vit dans le grand âge comme on le vit. Et c'est le grand malheur d'aujourd'hui. Vous connaissez Gad Elmaleh, qui est un humoriste, et dans un de ses sketchs, je dis pas amen à tout ce que j'entends, même que ce soit Gad Elmaleh, tout Gad Elmaleh qu'il est, je dis pas amen à tout, mais il a dans un de ses sketchs quelque chose qui m'a pris le ventre le jour où je l'ai entendu. C'était sur le téléphone portable. C'est le père qui appelle son fils. Et il tombe sur son, ce qu'on appelle le combox, sur son répondeur, et puis il entend son fils dire « Pour le moment, je ne suis pas là, mais vous pouvez me laisser un message. » Et le père qui répond « Mais moi je suis là, enfin, pour le moment. »
Je crois qu'il faut que nous terminions parce qu'il y a la route. On a beaucoup parlé de l'homme et de ses problèmes et de ses questions. On a dit aussi que Dieu est un Dieu de miséricorde et de justice. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que c'est un Dieu d'amour. Et on peut bien avoir tous les problèmes qu'on veut. Dieu, si on le prie, si on s'adresse à lui, eh ben je crois qu'on recevra la réponse. Ouais. Merci Daniel. Je veux vraiment remercier Eric. Et peut-être simplement une dernière histoire. Martin Buber disait que chaque personne née en ce monde représente quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant, original et unique. Ça, c'est sûr. Alors, Rabbi Souzia, avant sa mort, dira, bien sûr, certains la connaissent, cette histoire, « Dans l'autre monde, on ne me demandera pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» On me demandera « Pourquoi n'as-tu pas été Souzia ?»« Pourquoi n'as-tu pas été toi-même ?» Et je crois vraiment que tout ce que vous avez dit ce soir, tout ce qui peut être réfléchi sur la condition humaine, sur l'homme, l'être humain, la femme aussi, bien sûr, même si elle a des grâces, je crois, je l'avais entendu effectivement, je pense qu'on a un long chemin de transformation et peut-être justement pour aller vers l'autre et pour l'amour, certainement. Merci en tout cas, Eric. Merci infiniment.